Londres. Entretien de Paul de Brancion avec des écrivains de poésie.
Vous écoutez Allegre FM 93.1. Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Je reçois aujourd'hui un festival de poésie parisien qui s'appelle Du haut des cimes de Ménilmontant, qui est créé et animé par Julien Markland. Julien, bonjour.
Bonjour, merci de nous recevoir.
Mais je t'en prie, je vous en prie. Je ne reçois pas que Julien Markland, je reçois aussi certains de ses invités que nous allons rencontrer au fur et à mesure au cours de l'émission, et qui sont invités à ce festival et qui vont lire quelques extraits de leurs textes. On parlera d'eux dans un instant. Bonsoir à vous, en tout cas. Qu'est-ce qu'on fabrique? Alors, il y a une affiche autour de ce festival du haut des cimes de Ménilmontant pour la programmation 2024. Et qu'est-ce qu'il a de spécifique, ce festival, Julien? Alors, dites-moi.
Alors, il faut savoir que moi, je viens du théâtre. Hein, donc je viens évidemment aussi de l'écriture depuis longtemps, mais je suis comédien et metteur en scène aussi. Et donc j'accorde pas mal d'importance à la mise en scène des choses. C'est-à-dire que je crois qu'on n'échappe pas à la théâtralité, qu'on n'échappe pas à la mise en scène d'une certaine façon, comme un professeur n'échapperait pas à son corps dans une salle de classe. Donc j'étais souvent sensible dans des lectures de poésie, parfois à l'ennui qui pouvait sévir. et qui venait aussi parfois du fait qu'on croyait qu'un texte comme ça pouvait être accessible directement, sans médiatisation ou sans stratagème. Sans explication, sans clé, etc. Ou sans simplement un interprète qui soit capable de lire correctement. Donc, je suis parti de cette chose-là, d'une part, c'est-à-dire de la nécessité du théâtre, même s'il n'y a pas que... Il y a aussi des lectures toutes simples, hein, dans le festival, mais aussi de l'amour du territoire dans lequel je vivais, qui était la colline de Belleville, Ménilmontant, et qui, en fait, voilà, un ami historien qui dit il y a les points d'eau et il y a les points hauts. Voilà. Et c'est ce point haut, comme ça, où il y a une succession de belvédères, comme ça, où il y a une sorte de promenade des hauteurs, comme ça, qu'on peut faire, et dont on aperçoit Paris d'un côté, et la banlieue nord-est de l'autre. C'est un point de vue. Et ça nous a. Et le fait que le festival soit dans différents lieux du territoire. Ce côté nomade a fait qu'on a vécu aussi la poésie comme un arpentage du territoire.
D'accord, mais alors j'ai compris que votre festival est un paradoxe d'une certaine façon, puisque vous avez une programmation et un accès exigeant à la poésie, mais vous voulez vous adresser au plus grand nombre, ce qui est quand même très heureux, mais ce qui est très bien, tout à fait louable bien sûr, mais comment faites-vous pour arriver à associer ces deux contraires, c'est-à-dire quelquefois des textes non pas difficiles mais exigeants, c'est-à-dire qui méritent une écoute qui n'est pas celle du siècle en règle générale dans le texte littéraire et dans les propos littéraires, et être dans la ville, être au milieu des gens, être ouvert, populaire, entre guillemets, au bon sens du terme. Voilà, quelle est votre recette pour faire ça?
Alors déjà, on n'a pas de recette parce que c'est pas facile et que c'est chaque jour un défi, entre guillemets, de rendre accessibles les écritures contemporaines qui sont parfois difficiles, en tout cas pas si aisées d'accès. Mais en tout cas, je parlais de déplacement. De déplacement, par exemple, on fait par exemple des promenades poétiques, par exemple. Des promenades où on va se déplacer...
Dans les cimetières, si j'ai bien compris.
Alors, on en a dans des cimetières, notamment du Père Lachaise, mais là, on va faire une promenade, par exemple, le 2 juin avec Céline Dessart et Michael Gluck entre le cimetière de Charonne et le cimetière du Père Lachaise. Mais on a d'autres promenades aussi sur les zones du périphérique, parfois, ou d'autres endroits. Mais ce simple déplacement du spectateur, en fait, ou de l'auditeur, je dirais, il permet d'ouvrir son oreille. Et d'ouvrir son oreille parfois, de le faire respirer déjà, et d'ouvrir son oreille à tout d'un coup des écritures auxquelles il n'aurait peut-être pas été aussi sensible ou il n'aurait pas eu accès s'il avait été dans une salle avec quelqu'un au micro, sur un piédestal entre guillemets ou sur une estrade et vous assénant la chose. Donc ça c'est déjà des stratagèmes comme ça, mais pour répondre à ta question, en effet il y a un paradoxe là-dedans. Et c'est vrai que, par exemple, le monde parfois politique dans lequel on baigne, tout ça a tendance à assigner le public à résidence culturelle. Hein. Mmh. Et ça, je suis absolument contre ça. Ça fait partie de ma ligne. C'est-à-dire que je pense que tout le monde peut accéder à la poésie à condition de lui donner des clés, etc. Même à la poésie la plus exigeante contemporaine. Mais que pour ça, il a besoin d'être accompagné, il a besoin d'éducation, une forme d'éducation populaire au sens noble du terme. Et que c'est aussi en allant en faisant un travail de terrain à l'année, parce que l'association Belles Absences qui programme le festival fait un travail de terrain à l'année dans les écoles, sur le territoire auprès d'autres associations. Comme ce soir, par exemple, il y a une rencontre foot et poésie assez improbable sur le papier, mais qui va impliquer des jeunes de la jeunesse Feu Vert, qui sont des jeunes du quartier. Et ça, le foot, c'est un moyen de briser la glace entre nous et de rendre cette conversation possible. Voilà, et de leur donner accès à ça. Donc, ce n'est pas tant la nature de la programmation, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire du slam ou du hip-hop, par exemple, pour simplement aller dans le sens de ce qui pourrait être une culture populaire générale. Mais par exemple, même s'il peut y avoir du slam de qualité, etc., par ailleurs, ce n'est pas la question, mais on va essayer de travailler le terrain pour qu'il y ait un travail un peu plus sur long terme qui se fasse.
D'accord. Alors, dites-moi, déroulez-nous assez succinctement quand même le programme, parce qu'il ça dure plusieurs jours, ce festival.
Ouais,
ça dure
une dizaine de jours.
Voilà, une dizaine de jours. Donc, il y avait plein de poètes. Alors, vous jouez au football, vous allez voir les morts. Et puis, qu'est-ce que vous faites d'autre donc?
Alors, c'est en effet, c'est un festival qui est dédié aux poètes vivants, hein, francophones.
D'accord.
Voilà, ça, c'est la ligne.
Être français vivant.
Non, francophone.
Francophone. Voilà, francophone. D'accord.
Voilà, donc,
oui.
C'est pas forcément français, mais en tout cas, c'est vrai qu'on élimine comme ça un petit peu aussi, même s'il y a des exceptions qui confirment la règle, hein, puisque évidemment, il y a des poètes morts qui sont toujours assez malins pour se glisser dans le festival. Ça arrive régulièrement. Hein. Des fantômes, c'est ça. Et puis il y a aussi quelques poètes étrangers qui parfois sont traduits dans le festival, mais la barrière de la traduction, voilà.
Alors, parce que vous êtes venu aujourd'hui donc avec Suzanne De Pelt, qui présentera, on va parler d'elle et de ses textes, et Germain Reusch, qui est à la fois éditeur, plasticien, écrivain, et mille choses, enseignant, etc. Et puis, vous avez aussi, si j'ai bien compris, un certain nombre d'éditeurs qui viennent sur place. Vous avez un marché de la poésie, vous avez un petit marché,
petit.
Voilà, et aussi vous avez un invité, je crois que les éditions POL sont présentes de façon un peu soutenue. Hein.
Ouais.
Je crois d'ailleurs que Suzanne De Pelt, ici présente, est aussi éditée par cette maison d'édition. Donc il y a plusieurs entrées, il y a les poètes, les activités annexes ou les promenades nomades, et puis les éditeurs
et les spectacles. Et la vocation du festival, c'est aussi de mettre en valeur différents métiers, pas seulement les poètes, mais aussi en effet les maisons d'édition. Il y a une grande richesse, comme vous le savez, de maisons d'édition en France, notamment par rapport à la poésie. Et donc, et les libraires aussi, parce qu'on est partenaire avec deux librairies, la Bicyclette Bœuf, on était hier soir, et puis la librairie L'Atelier, où on sera le 6 juin.
Mmh.
Voilà, donc on essaye de. On est aussi en partenariat avec des médiathèques ou des bibliothèques, etc.
Et alors, il y a un endroit central du festival. Où est-ce qu'il faut aller si on veut voir le festival?
Un peu partout.
Mais pour retrouver les gens, ça se trouve à Ménilmontant, mais vous avez un bureau, un endroit,
alors,
un accueil. Voilà.
L'association Belles Absentes, elle est 4 Villas des Otages, dans le rue Axo, dans le 20e.
D'accord.
Hein. Et donc voilà, mais disons qu'on fait assez peu de choses là-bas, on en
D'accord.
a fait. Mais simplement, par exemple, si vous venez par exemple à la Nuit Blanche de la Poésie, le 1er juin, ça va être au Pavillon Carré de Baudouin.
Mmh.
Qui est un endroit, une ancienne folie du 18e, qui est à l'angle de la rue Pyrénées et de la rue Ménilmontant, et au 121 rue Ménilmontant.
C'était la folie de qui?
C'était la folie de M.
Baudouin.
et c'était des Parisiens, des bourgeois parisiens qui avaient leur maison de campagne là-bas. Donc ils voyaient à l'époque Paris de là-haut, voilà, du haut des cimes de Ménilmontant.
Et donc, vous avez repris cette folie pour y mettre de la poésie, c'est
oui,
ça?
Oui, on va faire un hôtel poétique, là, le 1er juin, avec des poètes, des performeurs, des musiciens.
Qu'est-ce qu'un hôtel poétique?
Alors, un hôtel poétique, c'est un endroit où on habite, en quelque sorte, où les poètes vont habiter dans différentes salles.
Voilà. Oui.
Et où le spectateur va être amené à déambuler d'une salle à l'autre, comme ça, et à rencontrer différents poètes, différentes propositions poétiques. Des spectacles, des récitals, des films aussi. Mmh. Voilà. Et il y a une très belle exposition actuellement, d'ailleurs, qui a lieu, dans laquelle on rentre en contrepoint avec cette exposition. C'est sur Chaillot, mmh. et sur les danseurs de l'opéra. Et en relation avec un travail qu'ils ont fait avec des personnes en difficulté mentale, voilà. Donc qui ont participé à ces ateliers chorégraphiques, etc. Et alors le nom m'échappe, mais le photographe a capturé ces choses-là, ces moments où se confond en quelque sorte les passions et les danseurs de l'opéra. Et c'est une très très belle exposition.
Mais donc ça donne de votre part une conception assez élargie de la poésie, si je comprends bien. C'est-à-dire que la poésie s'élargit à la danse, s'élargit au spectacle, s'élargit. Alors est-ce que...
Pas exactement.
Non. Mais justement, c'est la question que je me pose.
Non, pas exactement, parce que je mets toujours le texte au centre des propositions qu'on a. Par exemple, si on fait une proposition d'une chorégraphe ou d'un musicien, ça sera nécessairement en relation avec la poésie. Je prends un exemple. Par exemple, on a fait venir la compagnie Trans de Laurence Martouret, qui a fait un spectacle dans le pavillon Carré-Baudouin il y a 2 ans, et elle a fait un spectacle de danse, mais qui était chorégraphié à partir d'un texte de Valérie Rousseau. Mmh. La chorégraphe a présenté son travail, et après elle a eu une rencontre où elle a pu expliquer ses méthodes de composition chorégraphique et comment elle avait travaillé à partir de ce poème. Donc la relation est toujours construite. Parce qu'on voit parfois des festivals où il faut un peu de tout, etc. Il faut un peu de musique, il faut un peu de danse, etc. Je suis absolument contre ça. J'essaye de construire des relations qui soient, ou la poésie au sens textuel du terme, même si voilà, ça peut avoir un sens plus large, soit au centre.
Alors, donc, vous êtes venu avec Suzanne Doppelt et avec Germain Rush, avec qui on va parler dans un instant. Vous-même écrivez de la poésie, on évoquera aussi, je crois, vos textes. Et donc, ce festival du Haut Destin de Ménilmontant est commencé et continue jusqu'au 4-5 juin, c'est ça, non ?
9.
9 juin, 9 juin. Voilà, incroyable. Ouais. Alors, ça a dû être compliqué à organiser tout ça.
Ça prend l'année, oui.
Merci.
Merci à vous.
Même tes poubelles ignorait la veille sont devenus des visages qui dégueulent des nuages. On te traverse, ce soir on prend le temps d'admirer tes talons. Car cette nuit miracle, il neige et par la force des choses, on lève les yeux au ciel et le sourire aux lèvres. On te regarde renaître sous une pluie de paillettes. Les cœurs se soulèvent et dans un grand silence, on retombe en enfance.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Alors, sur Chute Libre, une fois n'est pas coutume, je reçois un festival du haut des cimes de Ménilmontant pour sa programmation 2024 avec Julien Markland, qui en est le chef d'orchestre et qui est venu avec dans sa besace deux invités, Suzanne Doppelt et Germain Rush, et avec qui nous allons échanger dans un instant. Ce festival a lieu actuellement et justement, on pourra retrouver Suzanne Doppelt le samedi 8 juin pour les 40 ans des éditions, enfin, au lié aux 40 ans des éditions POL, avec Christian Prigent, Frédéric Boyer et Suzanne Doppelt. Donc, Suzanne Doppelt, bonjour.
Bonjour.
Vous écrivez de la poésie, une poésie d'aujourd'hui, contemporaine, tout au moins un texte contemporain, parce que ça ne se présente pas, ce que vous écrivez, forcément comme des vers que nous connaissions quand nous allions à l'école.
Non. On a, généralement, on dit que c'est de la prose poétique.
Voilà, oui.
Et moi, j'ai du mal à définir en réalité ce que c'est. Non pas parce que ce serait unique, mais parce que c'est bon, parce que j'ai toujours trouvé difficile de définir exactement ce qu'on fait, ce que je fais, plutôt.
Vous avez fondé, vous avez dirigé avec Pierre Alfieri la revue Détail.
Oui.
Vous avez été membre du rédaction de la revue Vacarme.
Oui, très longtemps.
Vous dirigez les collections Rayon des curiosités chez Bayard.
Ce qui n'existe plus.
Qui n'existe plus.
Oui, j'ai dirigé.
La collection.
Non, Bayard existe toujours, mais la collection n'existe plus.
Voilà, et vous avez collaboré au journal L'Impossible et puis vous publiez aux éditions POL depuis un certain temps.
Depuis toujours, à vrai dire. Oui.
Toujours, c'est donc un certain temps.
Oui.
Et vous avez, enfin, vous avez très gentiment m'avez adressé deux ouvrages dont on pourrait dire un mot. Le premier, Métadona, et le deuxième, on le dira tout à l'heure. Et Métadona, c'est des histoires d'araignées. Alors, qu'est-ce que c'est que ce...
Alors, c'est...
Enfin, pour le béotien que nous
oui,
sommes,
oui.
Lecteurs,
en fait,
c'est une histoire d'araignée.
Métadona, en un mot et rapidement, c'est quelque chose sur quoi j'ai eu envie d'écrire immédiatement en ayant vu un petit film ethnologique mm-hmm. qu'on m'a montré alors que j'étais dans les Pouilles et qui date des années 60, oui. Un petit film de Mingozzi qui a, à la suite d'Ernesto De Martino, cet ethnologue ou cet anthropologue italien, a fait ce petit film sur le rituel de dépossession de la tarentule dans les Pouilles, qui est un des derniers rituels de dépossession européens dans ces années-là. Parce que, bon, après, ça s'est plus ou moins continué de façon folklorique, mais à l'époque, à cette époque-là, ça ne l'était pas encore.
Qu'est-ce qu'un rituel de dépossession ?
Alors, en fait, chaque année, le 29 juin, au moment des récoltes, c'est-à-dire sur cette terre extrêmement pauvre, et il y a, donc avec cette crainte que les récoltes ne soient pas suffisantes pour tout le monde, pour pouvoir manger simplement, eh bien, les gens... Certaines personnes se croient mordues par l'araignée qu'est la tarentule et tombent dans une mélancolie qui peut se renouveler et durer des années. Et donc le 29 juin existe ce rituel qui est ce rituel de dépossession qui prend la forme que qu'on peut voir dans ce petit film qui est visible sur Internet d'ailleurs, sur YouTube, qui s'appelle La Taranta, qui prend la forme d'une séance qui démarre chez les gens dans des bassis, c'est-à-dire dans des maisons très très pauvres, qui prend la forme d'un... La possédée danse pour se débarrasser de l'araignée. Voilà, elle danse pour se débarrasser de l'araignée et elle est accompagnée en musique, une musique absolument remarquable d'ailleurs, qui est très inspirée par la tarentelle, hein, enfin, ou qui deviendra la tarentelle. Mais ça, c'est un rituel, c'est quelque chose qui existe depuis le Moyen-Âge au moins, hein, et qui prend la forme donc d'une danse, de la musique et par ailleurs de couleurs qui sont incarnées par des morceaux de tissu qu'elle touche. Et en fait, cette danse est très ritualisée, c'est-à-dire que quand elle est au sol, elle piétine l'araignée, et quand elle est au sol, elle est incarnée par l'araignée, donc elle prend vraiment des poses d'araignée, et quand elle est debout, elle la piétine pour la faire sortir de son corps. Et ensuite, le rituel se déplace vers la chapelle Saint-Pierre et Saint-Paul à Galatina, parce que c'est essentiellement dans cette ville du sud que ça se passe. Et bon, il faut dire que c'est un culte complètement hérétique. Mais voilà, ça se déplace là-bas et se réunissent autour du 29 juin tous ces tarentulés qui sont essentiellement des femmes et qui peuvent être des hommes aussi. Voilà, et c'est là-dessus que j'ai voulu...
Vous nous lirez un extrait
Oui.
De Tarentulette, de Tarentuleux.
Peut-être je vais vous lire la fin, parce que la fin reprend absolument... voilà, je vais lire la dernière page, enfin les deux dernières pages. À l'écart du soleil, mais non du curieux, une séance a bien eu lieu, tout commence au sol, un sol froid comme de la pierre, la danseuse ne danse pas ou danse électrique quelques jours d'affilée, les musiciens ne jouent pas ou jouent, assourdissant de quoi réveiller un mort, les curieux ne voient rien, rien, sous leurs yeux seulement une histoire à dormir debout. Une araignée a mordu le matin au saut du lit, en taillant la vigne, près de la fenêtre vers midi et son venin, inactif, a changé le cours des choses. D'abord de fatigue, accablée, un méchant spleen, la face noire, le regard d'une statue. Ensuite, une drôle de girouette, une suite enragée, plusieurs rythmes et plusieurs mouvements, ils imitent les remous de la mer et les allures de son double, retranché. Au fond de sa prison, Pélisson s'est entiché d'une araignée, elle, de même, une tarentule au grand air, un secret très mal gardé, au point d'en devenir une, tous les ans, au même moment, dans ses déserts, dans ce soleil méconnaissable, elle héberge une petite bête des champs. C'est la chronique d'un amour fou et déchirant. Par un pied, elle s'en est venue. Par là, elle devra partir. Droite ou la tête en bas, elle devra partir comme de sa vieille enveloppe. Tout se transforme identique ou presque, mais la forme et la matière se perdent à l'œil nu. Une grenouille devient une feuille, un homme, une vipère. Eux se confondent, un moment, celui d'une grande fête au village. On ne se reconnaît plus, on s'invente un nouveau visage, pas de bouche, pas de langue, pas de dents. Une séance a bien eu lieu à l'écart du soleil devant chaque curieux, un 29 juin à Galatina ou ailleurs. Il a fallu répondre aux ordres d'une petite bête noire, sourde, ventriloque et experte en broderie, pour oublier un certain malheur du temps, sur son dos se refaire une santé, une fable hallucinée venue du fond des âges, de la préhistoire ou peut-être du champ attenant, là où chaque année, moitié perdue du sol, on récolte ce qu'on a follement semé et on voit on ne sait quoi de submergé.
Alors c'était donc un extrait de Métadonna de oui. Suzanne de Pelt, édition POL. Et, alors c'est un peu le mal qu'on exorcise, cette araignée, ou pas, selon vous?
C'est pas vraiment le mal, c'est plutôt une tentative de régler à la fois des problèmes sociaux et des problèmes psychiques, mais c'est pas tant le mal, c'est ce qu'il faut dire et qui est quand même essentiel, c'est que la tarentule est inoffensive. Mmh. Et elle peut tout au plus faire une petite un petit bouton, elle peut provoquer un petit bouton. Donc en fait, les gens se croient possédés, mais ils ne le... Enfin, ils le sont, de fait, mais la tarentule est complètement inoffensive. Et c'est, enfin, en tout cas, celle-là. La tarentule des Pouilles est inoffensive.
Vous écrivez qu'elle a mordu le matin. Une araignée a mordu le matin au seau du lit en taillant la vigne. Près de la fenêtre, vers midi, son venin inactif a changé le cours des choses.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, on peut être mordu n'importe quand. Cette morsure, souvent, en fait on n'en sait rien, mais souvent plonge dans un état de léthargie et il faut le dire, de grande mélancolie.
Vous l'écrivez d'ailleurs, d'abord de fatigue accablée, un méchant spleen,
ouais.
La face noire, le regard d'une statue, ensuite une drôle de pirouette, ensuite enragée, plusieurs rythmes et plusieurs mouvements, ils imitent les remous de la mer et les allures de son double retranché.
Oui.
C'est joliment dit.
Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est ce qui se passe. Si vous regardez le film, oui.
It's a little bit funny, this feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. I don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where we both could live. If I was a sculptor, but then again, no, or a woman who makes potions on a traveling show. I know it's not much, but it's the best I can do. My gift is my song, and this one's for you. And you can tell everybody this is your song. It may be simple, but now that it's done, I hope you don't mind. I hope you don't mind that I put down in words how wonderful life is. Now you're in the world. The sun's been quite kind while I wrote this song. It's for people like you that keep it turned on. So excuse me for getting these things I do. You see, I've forgotten if they're green or they're blue.
Allegre FM 93.1.
Alors, sur Chute Libre, je reçois le festival du Haut des Cimes de Ménilmontant avec Julien Markland, Suzanne Doppelt et Germain Reuss. Germain Rusch, bonjour alors, puisqu'on on se parle enfin. Vous êtes tout à la fois éditeur, plasticien et écrivain de poésie. Vous faites donc beaucoup de choses. Vous avez aussi enseigné, je crois, à l'école d'architecture ou quelque chose comme ça, ou l'école des Beaux-Arts, pardon.
Non, j'étais prof à l'université en théorie et pratique et sciences des arts. D'accord. Voilà, donc. Pour être précis.
Donc, pour commencer, moi j'aimerais bien qu'on entende votre voix en lisant un de vos textes.
Alors je vais commencer par lire deux fragments d'un texte qui est inédit, qui s'appelle « Oiseau exit ». Ce qui piaille moins, moins qu'un cri, qu'un pépiment, moins que plumes colorées, déplumées, l'oiseau moins qu'elle déployée, moins encore balai dans le ciel, cognement des ailes, moins encore pirouette, lacis du bleu, moins de fruits, d'insectes. J'ai vu un oiseau n'avait qu'un œil, j'ai vu un oiseau n'avait qu'une patte, j'ai vu un oiseau n'avait pas de plume, j'ai vu un oiseau n'avait pas de bec, j'ai vu un oiseau avait des dents, j'ai vu un oiseau qui ne ressemblait pas à un oiseau. Transparence des oiseaux, loin les trajectoires dans le ciel, invisibles. Parois érigées partout, trajet de vide, les lignes sont invisibles, les hirondelles froissent leurs ailes. Les moineaux sont aveugles, les mésanges aux auréoles décharnées, les corbeaux se rassemblent près des tombeaux. Un aigle sauvage s'abîme dans le chaudron glauque du capitalisme. Une perdrix se meurt dans son cri, s'étouffe, rien qu'un pigeon qui ronuse avec lui-même, tente à être colombe. Un colombri se fige, pierre devant un crâne ailé, rien à becqueter, rien. Le pollen a perdu son feuillage, pillage des pépiments, visage disparaissant des nuées des tourneaux, et nous, étourdis, distraits, satisfaits peut-être, être enfin seuls, et nous, si sots, rognés de nos ailes, débarrassés. Le pinson n'en pince plus pour la rosée, plus de rosée, le cygne se cygne dont l'étang une dernière fois fait l'autruche dans l'eau stagnante pour l'éternité. L'étang est noir et solitaire, pas un bruit alentour. Le chardonneret donnerait cher à ne pas tirer sa révérence et dans la langue les mots, les phrases disparaissent, à tire d'elle s'est envolée, consumée dans la disparition généralisée. Et dans la langue, l'expression sous mon aile protectrice disparue, éteinte sous les feux de la rampe. Et dans la langue, l'expression gaie comme un pinson figé dans une grimace sombre. Et dans la langue, elle jacasse comme une pie, exit. Murée dans le silence carbonique, et dans la langue, le merle moqueur s'est perdu dans le labyrinthe des heures. Et dans la langue, tu boites comme un canard, tu te dondines comme une dinde, exit. Là de la langue. Il chante comme un rossignol, exit de la langue, broyé dans l'infâme bruit des machines. Et dans la langue, parler la langue des oiseaux, exit l'alchimie souterraine, séculaire. L'aigle royal ne vaut davantage que la gelée, exit de la lance. Et la bécasse n'a plus à résister au plomb du chasseur, exit la bécasse, exit les plombs, exit le chasseur. Et puis peut-être la fin. Dans la langue, exit l'expression prise de bec, je vais te voler dans les plumes disparues, alouette, alouette, je te plumerai, chanson rayée. Tu fais le coq disparu, tu fais l'autruche disparu, le poème comme un vol de gerfaut disparu, tu bailles aux corneilles, excite tous les oiseaux de l'arche, excite le corbeau, la colombe, Noé ne reviendra pas. Et la maman qui dit à son petit, comment va mon piou-piou, excite. Et le simorgue, excite du perse. Et les corbeaux croissent, et moi je crois, de Nougaro, exit de la langue, le coq chantera trois fois, exit de la langue, ne chantera plus, exit de la langue, tous les restaurants avec des noms d'oiseaux, au cygne, exit à la cicogne, exit.
Alors vous avez une activité double de plasticien, qu'est-ce que c'est que votre activité de plasticien ?
Alors je suis
C'est difficile de parler des tableaux comme ça, mais voilà, on est là pour ça.
Je suis un peintre contemporain qui travaille plutôt dans une abstraction allusive et souvent dans des installations. Donc ça peut convoquer aussi la sculpture. Je fais des choses globalement assez grandes qui peuvent faire 6 mètres, 7 mètres. J'ai fait des pièces de 6, 7 mètres de haut qui sont installées dans des lieux évidemment in situ. J'use beaucoup de mon corps, je dirais. C'est-à-dire que pour une expérience aussi qui explique celle de l'écriture et de la peinture, qui est liée à l'âge de 15 ans, où j'ai été cloué pendant plusieurs années sans pouvoir me déplacer, marcher. Et depuis, c'est quelque chose qui m'active. C'est un peu ce que dit Valérie aussi, tout artiste vient avec son corps en premier. Après, il y a ce qu'on analyse, il y a ce qu'on présente, il y a ce qu'on invente. J'ai noté tout à l'heure, dans la question posée à Julien, sur comment on pouvait être paradoxal en s'adressant à tous les publics, mais sûrement pas en s'abaissant au public, mais en montant le public. C'est-à-dire en amenant une présence plus grande, un sens plus grand, etc. Et je crois qu'on peut faire ça. Moi, je le fais avec la peinture et je le fais avec la poésie. Alors, quand même, petite précision, il y a une grande différence entre la peinture et la poésie. Ma poésie est peut-être une poésie plus de combat et ma peinture est une recherche plus de lumière. Je mets ça entre guillemets. Et en fait, les deux activités, c'est essayer de dire ce qu'on ne peut pas dire dans la langue courante ou ce qu'on ne peut pas dire dans les ressentis courants. Voilà, donc il y a une espèce d'ambition, mais une ambition qui prend en charge la totalité de l'histoire. Je suis un peintre abstrait, mais qui convoque Grunewald, qui convoque Konrad Witz, Hugo van der Goes. Enfin voilà, c'est les gens qui m'habitent, qui continuent de m'habiter. J'habite sur la frontière allemande et française, et au fond j'ai un pied dans les deux langues. Donc je me sers autant de la langue allemande que de la langue française, et je crois que je peins comme un allemand et comme un français.
C'est-à-dire que parfois... quoi peindre comme un allemand?
Non, mais je crois qu'il y a une dureté germanique qui m'intéresse, quelque chose... c'est pas de la brutalité, hein, parce qu'évidemment ça pourrait évoquer d'autres histoires dans l'histoire, mais il y a une brutalité, et puis j'évite la joliesse du ton français, et ça me permet cela. Pas pour le dire vite.
Oui, non, bien sûr. En tout cas, moi, j'ai vu certaines de vos installations et c'est vrai qu'il y a une recherche vers la lumière qui est tout à fait remarquable. Et la désincarcération, quelque part, enfin, vers l'ouverture, quoi. Il n'y a pas que la lumière, enfin, ou la lumière vécue comme une ouverture, en tout cas.
Oui, bien sûr.
Me semble-t-il.
Bien sûr.
Mais dans l'écriture aussi, alors, finalement.
Oui, 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 absolument. Alors, l'écriture, elle est toujours agie par, je dirais, par des événements extérieurs. Ça peut être évidemment la déliquescence du monde dans lequel on vit, mes révoltes et mes indignations par rapport à ces flux qu'on nous impose. Je crois que je cherche dans la poésie, dans la peinture aussi, un ralentissement. Je crois qu'il est nécessaire aujourd'hui de ralentir. Et ralentir, ça ne veut pas dire aller moins vite, mais ça veut dire pousser une puissance de sens. Et retrouver du sens. Je crois qu'on a perdu beaucoup, beaucoup de sens. Et donc oui, c'est ça l'ambition que j'ai.
Quel est ce temps? Quel est ce temps qui se déploie en tous sens, qui rôde dans l'image, qui submerge, qui rate sa présence, qui gonfle son émotion? Quel est ce temps qui se disperse, vers et contre, sans réponse jamais, changé? On est changé. C'est ça que vous avez
écrit. Oui, c'est ça.
Voilà, ben merci beaucoup, Germain. Alors, on peut parler aussi un peu, vous faites des petits livres magnifiques d'une collection qui s'appelle Bas de page, ou Les lieux dits, je ne sais plus quel est le nom exact de la collection. Et vous avez, je crois, fait avec une intervention de votre part, un livre avec Claudine Bowie qui est très joli. C'est sur un enfant, je crois. C'est sur la...
Je cherche un enfant.
Je cherche un enfant.
Je cherche un enfant. C'est un texte de Claudine Bowie. Oui, qui est un texte, c'est un vrai petit bijou, c'est-à-dire qu'il parle effectivement des enfants qui sont laissés pour compte, qu'on a abandonnés, qu'on a oubliés, mais pas seulement, ça parle aussi de l'enfant qu'on a en soi et qu'on a perdu de vue et qu'on n'arrive pas à protéger, à consoler, etc. C'est vraiment ce travail que fait Claudine d'ailleurs de livre en livre, hein, quand elle évoque, elle a écrit Mère la seule, elle a écrit Un père, enfin c'est toujours ce travail entre une analyse, une précision, une intervention plus profonde.
Il y a aussi un petit ouvrage de vous, alors, qui s'appelle « La collerette était rouge », qui est très étonnant parce que d'un grand laconisme, enfin, c'est extrêmement resserré, quoi. « Je sens pourtant ton odeur, une empreinte mordorée. Le silence est absolu et le va-et-vient de ta bouche. Des chevaux s'entrechoquent, des fantômes se démembrent. J'avance dans un demi-sommeil, dans un carrousel silencieux. Ai-je froid ? Je n'en suis pas certain. Merci beaucoup, Germain Rush.
Écoutez Allegre FM 93.1.
Alors, dans le cadre du festival du Haut-Décime de Mémé Montand, je reçois aujourd'hui Julien Markland pour son ouvrage Partition d'un oiseau perdu, publié par Germain Roche, à qui je vais poser la question tout de suite. Germain, comment se fait-il que vous ayez publié ce livre et comment avez-vous rencontré Julien et qu'en est-il de cette partition d'un oiseau perdu ?
En fait, j'ai déjà publié Julien, c'est le deuxième livre qui fait chez Le Lieu dit édition. Et il me paraît d'ailleurs de plus en plus important, maintenant que certains auteurs, un peu emblématiques pour moi, il faut que je les republie. Donc il faut que je continue. Peut-être que je vais d'ailleurs réduire à prendre des nouveaux manuscrits. C'est le problème de tous les éditeurs. Hein. J'ai mis le bras là-dedans et c'est un engrenage assez féroce d'une certaine manière. Et ce deuxième livre est comme une suite à Sage que j'avais déjà publié. Il y a quelque chose de très musical chez Julien, dans la construction, dans ses partitions. D'ailleurs, ça s'appelle partition. Ça n'est pas pour rien. Et puis ensuite, il y a des formules de nature fondamentalement philosophique. Et je pense à celle-ci que je cite de mémoire, où il dit « Nous pouvons mourir parce que nous sommes la lumière. »
Nous pouvons mourir car nous sommes la lumière.
Voilà. Et voilà, ça me paraît des... Alors c'est des choses comme ça qui s'incrustent dans l'ensemble du livre. Et Julien, d'ailleurs, avait fait des petits dessins aussi très musicaux et m'avait demandé Il avait sollicité aussi, pas seulement l'éditeur, mais le plasticien à reprendre ses dessins. Donc j'ai retravaillé dessus en respectant, me semble-t-il, le rythme du livre. Et ça, c'est quelque chose que j'aime bien faire. C'est pas de l'illustration, jamais. C'est vraiment une espèce d'écho sur l'écho, quoi. Enfin, de langue dans la langue.
On va demander à Julien si vous voulez bien lire un extrait de ce livre, donc. Semble-t-il, nous autorise à mourir.
Peut-être pas besoin d'autorisation, mais...
Je vous ai pris un peu de cours.
Oui, c'est ça.
Alors moi, je vais lire un tout petit extrait en attendant, pendant que vous cherchez. Ouais. Ici, le vol, le rapt, la lumière et la pensée sont mêmes. Apparaît, disparaît, s'efface, surgit de l'écran du réel, du relief et des milliards de replis enfouis de sa toile, une sorte de murmure, de chantonnement et d'infusion continue du sens.
Je vous lis un poème qui résonne pour moi, finalement, avec certaines obsessions et puis à certains démons, je dirais, ou je ne sais pas où, et qui s'appelle « À l'enfant mort trop tôt ». Par la voix d'Alyosha Dostoïevski, oiseau prophète de l'oubli, dit qu'un seul positif souvenir d'enfance suffit, cadavre putrescent, lumineux, à chercher des poissons d'or dans l'arbre de notre félicité, inspiration, pour toujours. Or, ton visage sur la photo, cher ange mort si tôt, rit, immortel. Samedi 26 février, les oiseaux te réveillent. Ukraine, 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 Ukraine. Mon fils chéri, l'os flûte brisé lance l'œil, la voix char nue, au ciel, 2022, la douceur du soleil bleu pur. Si inconscient comme avant de la guerre qui se trame, lugubre froide à l'autre bout du lit, des grands fleuves de sang de l'Europe bombardée, martyrisée comme pour nos vieux ancêtres, les larmes noires au fond des yeux ronds de lune, poursuivant leurs commentaires perpétuels, de l'antimatière insensée pour ton regard neuf, le seul dont l'expérience du charme compte. Pour le père et le fils, chante à tue-tête, pour la terre du futur, leur bourgeon, l'empreinte foutue de leur cause, chante, fleur de colombe devenue emblème. Fleur de ruines, d'illusoires asphodèles jaunes et bleus, alors la terre des forêts deviendra autre, ombre tachetée d'un nouveau motif brun-mauve où finit le monde réel, encombrant démon ton visage, redressé au milieu de cette neige, artificielle des cendres du monde à peine conscient, mousse et lichen, où tu t'étends déjà trop tôt de fatigue, champignons à peine semés, ruines, racines, coupées des souches nourricières. Par ta voix, déliée, reverdit l'arbre, bois des nuages, sang, trace de ton rire. Cher enfant mort trop tôt, il n'y a plus rien que des pensées là pour toi en massif, la mousse sur des tertres pourrissant dans la lumière, où trône ton image si présente malgré l'absence cruelle aux paupières du jour, adressée à ton père et à ta mère, sur la langue et le dos de tes amis les bêtes, les 10 000 mots de ton cœur rougissant dans le ciel bleu nuit, amour pour toujours, infini, fait de cette matière extraordinaire transmise et transmutée en courage maman pour toutes notre autres vies d'exil.
Alors dans Partition d'un oiseau perdu, que vous avez donc publié chez Germain Reuss, quelle est l'idée de cet ouvrage?
Alors, comme le disait Germain, en fait, j'avais écrit Sedge, qui est paru aux éditions Les Lieux Dits, il y a 2 ans, je crois, et qui, S-E-D-J, et qui désigne, pour moi, une forme de charme, qui est au sens celtique du terme, et qui avait pour objet le tissage des oiseaux dans le jardin. Voilà. Donc on avait une maison de campagne comme ça dans le Loiret où on a passé justement le Covid, le confinement. Et tous les matins, tôt, j'observais le mouvement des oiseaux. Et ce jardin était vraiment un royaume des oiseaux magnifique. Il y avait des symphonies d'oiseaux tous les matins vers 5 h du matin avec la lumière. C'était un plein est aussi. Et c'était vraiment un endroit magnifique. Et donc ce tissage avec ses apparitions, disparitions, etc. Moi, j'accorde toujours de l'importance à essayer de retraduire dans la forme l'objet, le sujet de cette chose-là. Et donc, évidemment, j'ai aussi, parallèlement à ça, je viens d'une famille de musiciens. Mon grand-père était musicien de jazz, compositeur de musique néoclassique, de musique de film. Mon père est compositeur de musique contemporaine. Donc, évidemment, j'ai aussi dans cette idée de la forme, de la composition, un modèle, hein, qui n'est peut-être pas celui de Messiaen ou quoi, mais qui serait de cet ordre-là, c'est-à-dire d'un ordre d'une construction complexe. Là, le poème que je viens de vous lire, par exemple, même si dans sa trame il est assez classique et qu'il est lyrique dans son chant, il est composé de... Chaque strophe est composée de 7 voix différentes, je crois. Donc, il y a une sorte d'hybridation des vers et de polyphonie qui se crée là-dessus et qui répond finalement à mon thème. Alors, Sedge, c'était une première tentative où il y a aussi des textes critiques sur la poésie d'aujourd'hui. Mais des textes qui sont le fruit de ce travail formel que j'ai fait, en particulier sur les mathématiques, sur la composition musicale, architecturale, etc., que j'ai adapté, transposé, qui sont des méthodes de travail personnelles. Voilà, on s'amuse comme on peut pour essayer de trouver, voilà, de me déplacer moi-même, de trouver mes propres filtres, mes propres alambics, etc. Et Oiseau, Partition d'un oiseau perdu va en droite ligne de ça. Voilà.
Et alors, vous écrivez vers la fin, Turque tourterelle, posée sur un pylône au matin, ce rêve, tu es le seul à l'entendre, dans la lumière rose, à marcher perpétuellement vers cet Orient, qui sans cesse se retire, mirage au désert, vois-tu. Merci beaucoup, Julien, pour être venu nous parler tout à la fois de votre festival des partitions d'un oiseau perdu que vous avez écrit et publié chez Germain Reuss au lieu dit. Avant de terminer, je voudrais dire un petit mot avec Suzanne de Blow Up, enfin de l'ouvrage qu'elle a écrit qui s'appelle « Et tout soudain en rien ». Voilà. Est-ce qu'on pourrait, brièvement, parce que malheureusement le temps a coulé, nous parler de cet ouvrage qui traite donc... Qui s'exprime autour du film,
oui,
d'Antonioni.
Alors, Blow Up est un film qui me hante depuis... Tout Antonioni, d'ailleurs, me hante depuis très longtemps, mais Blow Up peut-être en particulier parce qu'il y est question, d'ailleurs, comme dans tous les films d'Antonioni, il y est question d'image, et là, en particulier, c'est-à-dire que dans Blow Up, je vais pas raconter l'histoire parce que il me semble que tout le monde la connaît, mais ce que capte le photographe qui est là par hasard dans un parc un matin et qu'il photographie, c'est va l'amener, ce couple étrange qui a une attitude très étrange, va l'amener à développer à enquêter à la fois dans l'image photographique qu'il a prise et à la fois enquêter dans le parc pour retrouver ce qu'il a cru voir dans son laboratoire photo, qui est l'ébauche de quelque chose qui ressemblerait à un crime et en fait se désagrège au fur et à mesure de l'agrandissement qu'il en fait. Et voilà. Et donc cette enquête, j'ai voulu la suivre pas à pas, me mettre quasiment dans la peau de Thomas, le photographe, et de voir comment une image montre souvent bien plus que ce que l'œil peut percevoir. Mais comme le dit Antonioni, plus on s'approche et plus ça disparaît. Et voilà, et c'est ça, entre autres choses, qui m'a fascinée. Et la deuxième chose qui me fascine en général, c'est toutes les enquêtes qui n'aboutissent pas. Et c'en est une de plus. C'est une enquête qui n'aboutit pas. Et comme n'aboutissait pas l'enquête du livre que j'ai fait autour du livre de Gombrowicz, qui est une autre de mes passions, Amusement de mécanique, qui reprenait le livre Cosmos de Gombrowicz et qui, là aussi, est une enquête une espèce d'enquête paranoïaque qui va de signe en signe, d'objet en objet, et qui finalement ne renvoie qu'à elle-même. Blow Up, c'est... Blow Up, on pourrait en parler des heures. Parce
où est la réalité, où est le faux, où est le vrai.
Oui, et puis parce que c'est d'une richesse infinie, oui.
Pour donner du relief au parc repeint en vert, Anglais, les massifs de roses et l'herbe rase, le vent et le bruissement des feuilles légers, vers l'horizon une femme avec un homme, ils mènent la danse, pittoresque, un beau jour de flânerie le matin tôt, dans un parc à niveau, ils sont pris à la pointe du viseur, celui d'un voyageur qui en voit trop ou pas. Merci à vous tous, merci à Julien Markland d'être venu nous parler de son texte et du festival duo des cibles de Ménilmontant, auquel on souhaite bonne chance et bon vent. Hein.
Merci.
À Suzanne Doppelt pour ses très beaux ouvrages qu'on a simplement effleurés, bien sûr, parce qu'on ne peut pas faire autrement. À Germain Rush d'être présenté ses travaux et ses textes et son très intéressante conjonction entre l'écriture et l'art visuel, ce qui est un travail que je connais un peu et qui est magnifique. Merci à vous, à bientôt.
C'était Chute libre, entretien de Paul de Brancion avec des écrivains de poésie. Vous écoutez Aligre FM 93.1.